Les micros de fréquence oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence oscillée vous fait revivre tout l'été, planète en fait. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.
À Saint-Pierre-des-Nids, pour Planète en Fête, de nombreux exposants, et parmi les exposants, évidemment, beaucoup de producteurs de produits bio et de producteurs de Mayenne, de producteurs de la région. Et c'est un peu logique qu'on reçoive ici les bio du Maine, représentés par la trésorière de cette coopérative, qui est donc Colette Debieux. Bonjour Colette Debieux.
Bonjour.
Alors, les bio du Maine, c'est du lait que vous collectez pour fabriquer aussi un fromage, voilà. Et ce que vous vendez sous le terme générique d'entrame.
Oui. Oui.
Expliquez-nous un petit peu l'historique de ce fromage.
Alors l'historique de ce fromage, c'est un projet collectif. Aujourd'hui, on est 45 producteurs donc de la Mayenne, et donc 45 producteurs de lait bio, et on a envisagé faire un fromage pour se faire connaître, parce que nous étions des producteurs de lait bio et on livrait à différentes laiteries. Donc on vendait du lait entier, et on n'était pas on n'avait pas d'image, on n'était pas connu ni voilà. Et donc pour au travers du fromage, on s'est dit voilà, on saura que sur cette ferme là voilà, c'est un tel qui fait du lait et qui fait son lait, qui fait le fromage en trame.
Vous-même, vous êtes, vous élevez aussi, vous produisez du lait.
Oui, oui, moi, je.
Dans quelle région vous êtes
Donc, canton de Mélédumène, donc avec un associé en GAEC. Donc, on a 300 000 litres de lait en bio depuis 95. Donc, ça, c'est nous. On est au démarrage en fait de l'histoire de la coopérative. Et puisque au début, c'était un GIE de collecte. Nous l'avons transformé en coopérative pour notamment monter cet atelier artisanal de transformation en fromage. Quoi. Donc, en fromage, au lait cru. Et bio, voilà, c'est ça.
Donc tout le lait est destiné à la coopérative,
c'est-à-dire
à 100%.
Que tout le lait est collecté par la coopérative, mais tout le lait n'est pas transformé en fromage.
Mais celui que vous produisez part à 100% pour la coopérative.
Oui, 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 oui.
Dans cette coopérative, il n'y a pas que des éleveurs de votre région. Ça va beaucoup plus loin au niveau mayennais.
C'est tout le département. Nous sommes 45 producteurs sur tout le département et quelques-uns qui sont sur des communes limitrophes au département de la Mayenne. Quoi.
Quelles sont les conditions pour être membre de la coopérative? Je suppose satisfaire les critères bio, mais ça se contrôle comment tout ça? Comment on vous rejoint dans votre coopérative?
Alors déjà, effectivement,
il faut déjà
être producteur de lait bio, et ensuite on a un cahier des charges à la coopérative. Donc à partir du moment où on vient à la coopérative, on s'engage à respecter le cahier des charges. Et on a un cahier des charges assez draconien, parce que déjà on a commencé par garder le cahier des charges du règlement français, donc le logo AB, parce que le cahier des charges européen ne nous convenait plus, parce qu'il s'était très élargi, enfin un peu laxiste. Et donc on est resté avec le cahier des charges français, et ensuite on l'a encore un peu durci, en ce sens que pour faire fromage au lait cru, il faut aller d'une qualité de haute qualité. Et donc les fromagers s'étaient aperçus que quand ils avaient du lait de vaches laitières qui avaient mangé dans silage, le cahier n'était pas du tout le même, ni facile à travailler. Et donc on a fait un cahier des charges avec effectivement du lait au lait cru, donc de vaches qui mangent du foin et de l'herbe. Voilà.
Rappelez-nous un peu ce que c'est qu'un fromage au lait cru.
Alors un fromage au lait cru, c'est le fromager, quand il reçoit le lait des fermes, il est juste réchauffé à 32 degrés pour l'emprésurer et mettre les ferments lactiques. C'est-à-dire qu'il n'est ni pasteurisé, ni thermisé, enfin il n'est pas chauffé pour tuer justement tout ce qu'il peut y avoir dans un lait, c'est-à-dire toute la flore pathogène qui peut y avoir. Et donc et c'est pour ça qu'il nous faut un lait de haute qualité, hyper propre, et donc on travaille là-dessus quoi.
Donc votre coopérative collecte le lait mais fabrique aussi le fromage.
Oui, 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 c'est ça.
Il s'est installé où l'atelier qui travaille sur ce fromage?
L'atelier, donc, on a monté sur l'année 2010, puisqu'on on a démarré décembre 2010, et est à Entrammes, donc au sud de Laval, à 10 km au sud de Laval, sur un lieu qui historiquement était, il y avait du fromage puisqu'il y a l'abbaye du Port-Salut qui est tout près. Donc ce sont les moines qui nous ont vendu un hectare de terrain pour monter notre atelier. Et le Port-Salut, donc on effectivement on communique aussi avec cette image d'un fromage, l'histoire fromagère d'Entrammes.
Vous avez devancé ma question parce que c'est vrai que Entrammes est complètement associé à l'histoire du Port-Salut, bien sûr.
Ouais.
Et c'est vrai que ce nom est un nom très très adroit, très 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 porteur localement et même au-delà. Pour autant, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le Port-Salut historique donc de l'abbaye d'Entrammes et votre fromage à vous ?
C'est un peu le même style de fromage puisqu'on a une pâte pressée non cuite. Le Port-Salut, c'était ça. Bon, les moines nous ont dit qu'on n'avait pas, on n'était pas arrivé à leur niveau de qualité de fromage. Maintenant, ils nous ont pas donné la recette. Mais c'est un fromage qui ressemble un peu historiquement au Port-Salut que faisaient les moines ou les crus dans les années 60. Hein. Et donc c'est l'image qu'on essaie de colporter. Et pour communiquer commercialement, on se sert un peu de ça. Enfin, sur la Mayenne, on s'est servi de ça au début, quoi, hein, de dire ben voilà, on est Entrammes,
ouais.
On a essayé de refaire un Port-Salut, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est le style de pâte et le style de fromage. Quoi.
Alors, est-ce que comme d'autres fromages de fabrication, on va dire pas artisanale, mais coopérative, vous avez aussi des produits différents selon des âges de maturité
Et alors ça, c'est notre gamme de fromages.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme gamme sous le nom Entrammes toujours ?
Voilà, sous le nom Entrammes toujours, c'est-à-dire que quand on a fait notre étude de marché, on s'est rendu compte que les commerces, enfin beaucoup de commerces en fait, il fallait un petit fromage libre service, quoi, que facile à prendre dans un rayon. Donc on a le 250 grammes, donc qui est vendu en libre service. On a un fromage qui fait aussi, qui est affiné 4 semaines en cave. Hein. Donc ça c'est la durée de maturation. On en a un autre un peu plus gros qui fait 1,5 kg et qui est vendu donc en 1,5 kg, finalement ça c'est pour la coupe, mais qui a fini 8 à 10 semaines. On en a sorti un récemment là pour l'été, donc aromatisé avec des graines de carvi, donc en petit modèle, enfin en petit 250 grammes et puis aussi à la coupe, quoi. Donc ça c'est plus pour l'apéritif, les salades, parce que ça a un petit goût anisé, donc
ouais.
En fin de repas je trouve que ça va pas trop, mais bon c'est un fromage d'été, quoi, voilà.
En texture ils sont tous pareils ou il y en a qui sont un peu plus secs que d'autres
Celui qui est moins affiné, le 4 semaines, est beaucoup plus moelleux. En fait, il correspond mieux aux enfants, avec du goût, mais pas trop. Et plus on monte en maturation, effectivement, plus le fromage a du goût et goûtu, quoi.
Alors, on a vu avec vos collègues du Civam Bio qu'il y avait une volonté sur le département de la Mayenne de faciliter des circuits courts et la livraison des produits bio, principalement dans les restaurations collectives.
Ouais.
Est-ce que ce fromage Entrammes a fait son trou en matière de restauration collective aussi ?
Oui, on en vend en restauration collective, par l'intermédiaire notamment de Manger Bio 53, quoi. Donc
voilà.
C'est ça, l'association. On adhère à la Manger Bio 53, oui.
Alors justement, c'est un point fort d'avoir un dispositif de ce type plutôt que d'être isolé
On a commencé effectivement par des livraisons comme ça en direct, et puis quand Manger Bio 53 s'est constitué, donc a fait son trou, effectivement, on a adhéré à Manger Bio 53, quoi. Sur le département. Et c'est en plein développement, ça.
Pour avoir une idée de la dimension économique d'un projet comme celui-ci qui vise à fédérer finalement des éleveurs et à fabriquer un produit et de faire sa place sur le marché, c'est ça. Ça mobilise combien de personnes ? C'est-à-dire, c'est combien d'éleveurs pour la fabrication du fromage ? C'est combien d'emplois ?
Voilà,
quel est l'impact, finalement, d'une initiative comme celle-ci ?
En fait, on est 45 exploitations. Ça fait une soixantaine de familles, hein, parce qu'il y a des GAEC dans les exploitations, sur la Mayenne. Et on a une quinzaine de salariés, quoi. Donc, entre les collecteurs de lait, les deux fromagers, les aides fromagers qui sont à la fromagerie. Donc, on a quelqu'un à l'emballage, quelqu'un assistante commerciale. On a un commercial, un livreur. Donc ça fait et puis comptable.
Et,
quoi,
et c'est sous quel statut entreprise
statut coopérative, coopérative, société coopérative agricole, quoi.
Société coopérative agricole,
SCOP,
y compris pour la fabrication.
Oui, c'est la même entité en fait.
C'est la même. Voilà, il y a pas de séparation entre ceux qui produisent et la transformation.
Oui, non, c'est à dire que ceux qui produisent sont chaque exploitation a un statut individuel.
Oui, bien sûr.
Mais et vend son lait à la coopérative, quoi.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Vous avez lancé ce fromage, vous nous avez dit il y a combien de temps ?
Fin 2010, quoi, décembre 2010.
Donc ça fait 3 ans en gros maintenant.
Ça va faire 3 ans, ouais.
Quel bilan vous jetez pour l'instant sur cette action en termes de réussite économique ? Parlons de réussite économique.
Alors en réussite économique, on progresse tout le temps dans nos ventes, dans nos quantités et le chiffre d'affaires. On a mis aussi, enfin, on a affiné le fromage la première
Est-ce
année.
Est-ce que vous avez réussi à faire rentrer la distribution classique, la grande distribution éventuellement dedans, ou est-ce que vous êtes sur un refus, ou est-ce que eux n'ont pas envie?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté, quoi, parce que beaucoup de consommateurs vont dans la grande distribution.
Actuellement, vous êtes distribué par...
On n'est pas distribué, mais on livre en direct tous les Leclerc de la Mayenne et aux alentours, dans les grandes villes aux alentours.
Quoi. Les Leclerc.
Leclerc, enfin bon, je parle de Leclerc, mais
Super U, oui.
Carrefour, enfin toutes les petites supérettes, on est partout en fait.
Voilà. Oui, ce qui fait quand même un relais important.
Oui, c'est mais on peut pas passer outre les GMS, hein, parce que même si dans l'éthique de la bio, on dit voilà, c'est le circuit direct, c'est les biocops, c'est les magasins spécialisés.
C'est les grandes et moyennes surfaces.
Mais en fait,
hein.
Si on ouais. grandes et moyennes surfaces, on peut pas passer outre parce que le consommateur va acheter aussi son les bio en grande surface. Et, voilà.
Donc pour tous ceux qui pensent que en matière de bio ce serait une histoire de rêveurs coupés des réalités économiques.
Oui, ou de niche.
Vous nous démontrez concrètement qu'un vrai projet économique lourd, finalement, puisque 15 emplois quand même derrière, avec de la distribution qui peut progresser, avec l'utilisation de l'ensemble des circuits, ça peut fonctionner.
Oui. Et puis, en fait, le but, c'est que chaque consommateur ait accès à ce produit, en fait. Parce que si.
Et en Mayenne, actuellement, chaque consommateur ait accès facilement.
Il est partout, à peu près, dans toutes les supérettes, dans toutes les communes.
Et en dehors de la Mayenne?
Alors, toutes les grandes villes aux alentours et toutes les Biocop aussi de l'Ouest, puisqu'on est sur la plateforme Biocop, voilà, qui est à côté de Rennes et donc qui est distribuée dans tout l'Ouest, en fait. Hein, donc, Bretagne, Normandie. Et
d'autres ambitions?
Les ambitions, pour l'instant, cette année 2013, on s'est donné d'asseoir encore notre assise économique sur tout
le
Grand Ouest, là, dans toutes les grandes villes, partout, parce qu'on n'y était pas partout. Pour l'instant, on va faire le bilan de ça. Et on a fait déjà des tentatives sur Paris, mais bon, ça demande beaucoup d'énergie d'y être. Mais ceci dit, il y a un bassin de consommation là-bas. Hein, donc, voilà.
C'est sûr.
On va déjà exploiter ce qu'il y a autour.
Mais en tram, mais peut-être un peu moins connu quand même, Paris.
Oui,
que
mais ils sont très
Paris,
friands
oui.
de les crus, hein, les fromagers parisiens, enfin, dans les beaux quartiers 13e, 16e. Enfin, le lait cru, ça leur parle. Et puis le porc salut aussi, ça leur rappelle des choses. Hein, les fromagers, en fait, ce sont des fins connaisseurs. Quoi, et à Paris, il faut tabler sur le haut de gamme. En fait. Là-bas, on est dans le haut de gamme. Quoi.
On le voit bien, on est dans du bio bien raisonné, avec du marketing derrière. Et donc une opération qui visiblement avance bien. Je vous rappelle que vous êtes Colette Debieux, vous êtes trésorière de la coopérative Les Bio du Maine, qui entre autres fabrique le fromage en tram, dont vous nous avez vanté les qualités gustatives et un beau projet en matière économique et de développement sain.
Oui.
Absolument. Merci Colette Debieux. Écologie présente sous toutes ses formes à Saint-Pierre-Denis pour Planète en Fête et il est logique qu'on s'intéresse aussi à la qualité de l'habitat. On le sait, il y a des enjeux importants sur la rénovation de l'habitat. On dit souvent que c'est éventuellement dans ce secteur-là qu'il peut y avoir des emplois qui apparaissent donc dans l'isolation, la rénovation de l'existant. Et il y a évidemment des entreprises qui se préoccupent de cette question parce qu'on a besoin, lorsqu'on est propriétaire d'une maison ou qu'on veut en construire une, on a besoin de conseils parce que c'est pas si simple de savoir quels sont les matériaux qui peuvent être utilisés maintenant dans une démarche saine, une démarche écologique. Michel Doudard, vous êtes le créateur et le patron d'une société qui s'appelle Eco-Sain Habitat, Sain S-A-I-N, on précise.
Tout à fait.
Rien de religieux dans tout ça.
Non. Bien qu'implanté en Bretagne.
Même si c'est en Bretagne. Pardon pour les Bretons. Donc. C'est en fait une société installée à Fougères qui travaille donc sur la notion de conseil et de vente de matériaux écologiques. En quelle année vous êtes parti là-dessus et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire ça, il faut qu'on s'en occupe sérieusement?
Tout simplement, j'avais vendu ma maison en Mayenne et j'avais l'objectif d'en réaliser une en ossature bois avec des matériaux écologiques. Et quand j'ai commencé à discuter avec la maître d'œuvre de Laval de matériaux écologiques, elle a écarquillé complètement des yeux en me prenant pour un halluciné de service. Et donc je me suis dit, ben, y a sûrement quelque chose à faire, quoi. Étant un petit peu dans la partie commerciale, connaissant un petit peu le bâtiment, je me suis dit, banco, il faut qu'on y aille, quoi, pour trouver tous les produits comme la laine de bois, le liège, le chanvre, etc.
Alors justement, on va plutôt s'intéresser à l'ensemble de ces matériaux. Allez, on va les prendre point par point. Les isolants. Les gens connaissent tous le polystyrène, connaissent tous la laine de verre. Bon, il y a mieux.
Il y a beaucoup mieux, évidemment. Après, ça dépend de quoi on parle. Nous, on a la chance d'être dans un métier où il y a plusieurs aspects, plusieurs paramètres à mettre en avant, je dirais. Il y a l'aspect qualité d'air. Il y a l'aspect aussi santé, donc qui en découle directement. Et puis il y a surtout l'aspect thermique dont on parle évidemment beaucoup aujourd'hui. Alors c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Et au milieu de tout ça, il y a l'aspect naturel, il y a l'aspect. Parce qu'il faut faire la différence entre un matériau sain, un matériau écologique et un matériau naturel. Parce que malheureusement, certains matériaux naturels, l'amiante en est un bon exemple,
ne sont pas
forcément tous sains, quoi. Donc voilà, il faut faire un petit peu le tri.
Est-ce qu'il y a des matériaux sains qui ne sont pas naturels?
Des matériaux sains qui ne sont pas naturels?
Ah, vous m'avez tendu la perche, hein, donc.
Oui, d'une certaine manière, parce que tous les matériaux qui sont pas nocifs pour la santé et qui sont originaires de la chimie, on pourrait le dire, oui, tout à fait. Ouais.
Mais vous avez dit aussi écologique comme troisième adjectif. Alors c'est quoi pour vous un matériau écologique?
Alors c'est un matériau qui va nécessiter le moins possible, par exemple, d'énergie grise, pour être réalisé. C'est là aussi on va différencier, par exemple, un polyuréthane d'une laine de chanvre. C'est-à-dire qu'une laine de chanvre, on sait qu'on peut en refaire chaque année au niveau agricole. En plus, ça pousse très vite, sans pesticides. Alors que pour faire un polyuréthane, il faut du pétrole, qui par définition n'est plus renouvelable, et puis surtout il va falloir dépenser beaucoup d'énergie pour le réaliser.
Alors le chanvre, nous sommes nous-mêmes dans notre région sartoise, une région de tradition de chanvre. Des fois on se dit, mais comment que ça se fait qu'on soit pas reparti à nouveau sur la culture du chanvre? Si nos ancêtres l'ont fait, c'est que la terre était favorable. Est-ce que le chanvre peut être porteur un jour d'une activité économique importante, indépendamment du fait qu'il peut être intéressant pour son coefficient d'isolation thermique?
En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a une association qui existe maintenant depuis 13 ans qui s'appelle Construire en chanvre, qui a justement fédéré tous les acteurs du chanvre, depuis le producteur jusqu'au fabricant de liant, aux gens qui vont le commercialiser, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à quelques milliers d'hectares produits seulement en France. Et demain, si on voulait mettre le chanvre dans le bâtiment, on multiplie par 15 ou 20 les productions de chanvre, quoi. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors ça, il y a un petit bémol, parce qu'il y a quelques années, il y a eu les émeutes de la faim un petit peu dans le monde, donc qui ont remis un petit peu en question la notion de terre cultivable. Pour en faire quoi? Est-ce que c'est pour en faire des choses qu'on va, des agrocarburants par exemple, qu'on va mettre après dans nos véhicules? Enfin voilà, ça devient très compliqué politiquement, il y a des choix à faire. Mais le chanvre est une véritable filière possible pour développer. D'ailleurs, là, il y a une coopérative avec qui on travaille, nous, qui est dans le sud Vendée, qui l'a bien compris. Qui était plutôt dans une filière classique de coopérative agricole et qui s'est rendu compte que le chanvre, sur le principe de la rotation des cultures, en faisant du chanvre une année sur trois dans la même parcelle, permettait de faire une économie énorme d'intrants l'année d'après et même l'année suivante encore. Et donc c'est devenu économiquement quelque chose d'intéressant pour les agriculteurs locaux. Et de fil en aiguille, ils ont développé la filière chanvre. Et ayant développé la filière chanvre, ils se sont dit, bah, il faut qu'on en fasse quelque chose de notre chanvre. Et ils sont devenus à produire de la laine de chanvre, de la chènevotte, etc.
La durée de vie d'un isolant chanvre, est-ce qu'on a une idée?
C'est infiniment plus long que tous les produits manufacturés.
Actuels.
Ouais.
Les points faibles?
Les points faibles, c'est malheureusement quelquefois le coût quand même. qui est un peu supérieur à évidemment les satanées laine de verre ou laine de roche, par exemple.
Alors, d'autres isolants, parce que là, c'est évidemment le chanvre auquel on pense en premier,
Aujourd'hui,
caractère écologique.
Aujourd'hui, il y a la laine de bois, tout ce qui est à base de fibres de bois, qui est très tendance, on va dire. Ça s'est développé énormément depuis 5-6 ans en France. C'était très connu en Allemagne, en Autriche, mais en France, ça s'est énormément développé. Donc ça, c'est, je dirais, le produit le plus à la mode, entre guillemets. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs usines de développer en France, hein, alors qu'auparavant, ça venait d'Autriche, d'Allemagne, de Pologne.
Ce qui confirme que c'est bien porteur d'emploi, cette rénovation
donc,
écologique. Oui.
Tous les grands producteurs de fibres de bois en Europe se sont tous intéressés à recréer quelque chose en France pour avoir des productions françaises aujourd'hui. Moi, je travaille avec une marque qui, par exemple, a son usine dans la forêt des Landes. Donc là, on est directement sur la production de bois sur place.
Alors, on va quitter les domaines des isolants. Je suppose qu'il y en a d'autres possibles. On va aborder la question des peintures. Parce que tout le monde sait bien que dans les peintures, on a longtemps utilisé des produits dangereux. On pense au plomb, par exemple, ou les solvants, etc. Bon, c'est quoi aujourd'hui une peinture écologique ?
Peinture écologique, c'est une peinture. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être soit une peinture où on fait le choix carrément d'éliminer tous les solvants. Donc nous, on a un fabricant, par exemple, qui a fait ce choix-là, qui par ailleurs est dans la chimie autrement, mais il a développé une gamme qui est complètement exempte de solvants, de COV, de synthèse, etc. Alors avec, par contre, des conditions d'application qui en découlent, quoi. Ça va être plus long en surface, en recouvrement, par exemple, ou des choses comme ça. Après, ça peut être de faire des choix intermédiaires, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'autorise quelques substances, mais qui ne vont pas dégager de COV, qui ne vont pas être dangereuses pour les gens qui vivent dans les maisons, quoi. Voilà. C'est aujourd'hui là. Donc aujourd'hui, on part beaucoup sur des produits en phase aqueuse. Il y a encore quelques fabricants qui travaillent aussi sur des produits à base d'huile de lin, par exemple. Ouais.
Sur les sols. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui à quelqu'un qui vient vous voir en disant je veux faire écologique, je veux protéger la planète, qu'est-ce que
sur, sur les sols c'est un peu plus compliqué parce qu'on revient au classique connu depuis très longtemps, c'est-à-dire c'est la terre cuite par exemple, ou c'est le parquet quoi. Donc ça c'est vraiment les deux sols phares, je dirais, sur les... Bon, les chantiers nous qu'on voit passer, c'est souvent ces choix-là qui sont faits. Après, il y a des gens qui ont essayé de développer des produits à base de liège. Où on est revenu au fameux linoléum. Tout le monde croit que le lino, c'est du PVC. Parce qu'en fait, ce sont les marchands de PVC qui se sont emparés du nom et qui donc aujourd'hui font des lino.
C'est quoi le linoléum en fait,
linoléum,
comme produit,
vous qui avez fait certainement du latin, linoléum, ça veut tout simplement dire huile de lin.
Oui, mais...
Et donc en fait, le véritable linoléum, à la base, c'était un mélange d'huile de lin, de farine de bois, de farine de liège, tout ça avec des pigments naturels pour les teintes, et mis sur une toile de jute. Et ça faisait des rouleaux qu'on a trouvés entre les deux guerres, il y en avait encore énormément de posés, quoi. Et depuis les années 50, tout le monde est passé au PVC, le pétrole.
Ah oui,
etc.
Je me disais quand même, faut remonter loin.
Voilà.
D'accord.
Mais aujourd'hui, il faut
savoir.
On
revient à ça alors, on peut revenir à ça.
Énormément. Là, c'est carrément par contre quelque chose de sûr et certain, c'est-à-dire que dans toutes les écoles aujourd'hui, où il y a des cahiers des charges un peu plus stricts en termes de développement durable, les crèches, les hôpitaux, les maisons de retraite, vous pouvez regarder aujourd'hui, ce sont des linoléums naturels qui sont posés. Et ce ne sont plus des PVC.
Aujourd'hui, est-ce qu'une maison écologique, une maison bien isolée, est forcément une maison plus chère qu'une autre ?
En règle générale, oui. Si on fait appel à des artisans de la même manière qu'avec une maison conventionnelle, oui, ce sera plus cher. Mais aujourd'hui, on a beaucoup dans notre clientèle des autoconstructeurs qui font le choix de prendre quelques mois sabbatiques pour justement réaliser eux-mêmes les travaux et gagner et pouvoir mettre quand même des matériaux écologiques.
Mais la maison bois, c'est un bon plan ?
La maison bois.
Vous aviez vous-même des idées là-dessus, non ?
Oui, tout à fait.
Vous avez construit finalement cette maison bois ?
J'ai pas construit la maison que je devais faire, parce que j'ai dû investir dans l'entreprise. Par contre, j'ai construit deux extensions sur la maison conventionnelle que j'avais rachetée. Et là, j'ai fait ça en bois, évidemment. Et bon, c'est un petit peu aussi un laboratoire pour moi où je teste tout un tas
vous
de produits.
Vous avez utilisé du bois local ou
j'ai utilisé du bois local qui est du Douglas en fait, oui tout à fait.
Ouais. D'accord, parce que c'est aussi un élément important.
Absolument,
ça, on l'a rappelé dans d'autres entretiens, oui.
Ah ben, certaines personnes vont faire des maisons bois. Alors, ça aura l'avantage de thermiquement être meilleur qu'une maison conventionnelle par pain, mais tout en restant dans le conventionnel avec malheureusement des laines de verre, du placo, etc.
Quel est le profil type de, s'il y en a un d'ailleurs, hein, des personnes qui se posent aujourd'hui la question d'un habitat plus écologique? C'est plutôt des jeunes ou est-ce qu'on trouve toutes les générations? Socialement, est-ce que
il n'y a pas
des gens qui disent c'est pas pour nous parce qu'on n'a pas les moyens? Est-ce que c'est pas un confort de riche?
Non, pas seulement. Alors il y a effectivement cette part-là qui existe, hein, où les gens qui sont très à l'aise vont se permettre de faire des...
Une bonne conscience
aussi, oui, tout à fait. Mais c'est plus souvent des gens qui soit qui ont eu des problèmes de santé soit dans leur entourage ou eux-mêmes et qui du coup se disent bah faut peut-être qu'on réfléchisse à la façon dont on va refaire et qui refont une deuxième maison. Les enfants sont partis ou sont sur le point de partir et du coup ils se refont une maison adaptée à leur vieillissement avec des produits sains. Ça c'est un cas de figure. L'autre cas de figure c'est effectivement des gens très jeunes, hein, c'est vraiment leur première construction et c'est là où on trouve des gens qui s'arrêtent de travailler pendant 6 mois, pendant 1 an et qui réalisent leur maison et là ça part des fois même sur des choses très écologiques puisque c'est du bois local, c'est de la paille, de la terre du jardin je dirais et avec les copains qui sont derrière pour pouvoir monter. Donc il y a vraiment tous les cas de figure aujourd'hui. Ça qui est intéressant aussi dans notre métier c'est qu'on croise énormément de gens
Vous pouvez
différents.
Donner quelques exemples de contacts que vous avez ici, les gens qui viennent vous voir le plus souvent, ils vous posent quel type de questions? Vous étiez juste voisins de notre studio ici, donc on a vu des gens qui venaient voir. C'est quel type de questions? C'est une première curiosité où ils vont plus loin c'est technique, c'est financier, c'est quoi les questions?
Alors c'est très variable, c'est ça qui est marrant aussi et intéressant. Planète en fait c'est déjà un public un peu averti, surtout les anciens qui venaient à tous les Planètes en fait. Et c'est l'avantage de Planète en fait, c'est qu'à chaque fois c'est dans un lieu différent. Et donc il y a tous les gens qui tournent autour de la population locale, des bénévoles, etc., qui connaissent pas du tout. Et donc on a vraiment les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont déjà des clients depuis longtemps, qui reviennent pour un conseil, pour compléter quelque chose qu'ils ont déjà réalisé, et puis des gens qui connaissent absolument pas, qui découvrent ce que c'est qu'une laine de bois, ce que c'est qu'une laine de chanvre.
Donc c'est très utile, Planète en fait.
Absolument.
Bah, voilà.
C'est pour ça que je viens chaque année, bien qu'étant très loin de mes bases ici aujourd'hui, mais j'ai toujours plaisir à venir depuis que ça existe et depuis que je suis installé à venir pour faire aussi ma part, je dirais, de communication et pour essayer de pousser plus de gens vers l'écologie et vers la maison saine.
Très bien, on vous remercie Michel Doudard, donc créateur et patron de Éco-Saint Habitat de Fougères, d'avoir abordé avec nous cette problématique fort passionnante des nouveaux matériaux à utiliser pour un habitat plus écologique et qui préserve la planète, un peu dans l'esprit général de Planète en fait, où nous sommes à Saint-Pierre-des-Nids. Merci.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence Oscillée vous fait revivre tout l'été, Planète en fête. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.